En mai, c'est le printemps de l'Europe sur Station Simone.
Vitaminer votre sensibilité européenne, Station Simone vous propose une boîte de pastilles politiques contre le populisme. Prendre une pastille par jour pendant tout le mois de mai. Complément culturel à base de fraternité essentielle, garanti sans conservateur.
Musique originale du générique de Bruno Bernard. J'aime bien sur votre blog le Wahnsinn im Alltag, la folie du quotidien. Il s'en passe des choses en fait, c'est ça qui en fait la richesse. Écrire le quotidien, c'est une forme d'engagement ?
Je crois que j'écris rarement autre chose.
Pasolini disait, il y a une façon de gauche de casser un œuf. Un geste quotidien peut être aussi un geste engagé. Mmh. Et là, je me dis, quand vous écrivez la poésie du quotidien, est-ce que ce n'est pas une certaine forme d'engagement ? Parce qu'un petit geste entraîne un autre petit geste, etc. Mmh. Et ça finit par faire beaucoup de mouvements.
Oui, surtout aussi, je trouve, disons, la poésie et les concepts politiques, c'est compliqué, ça ne fait pas de la bonne poésie. Et je pense que ça peut arriver, ou c'est peut-être pas de nos jours, ou ça dépend aussi où on regarde, mais dans la culture où moi je vis, je pense que c'est plus intéressant de commencer par les détails qui ont souvent aussi une magie cachée ou ouverte, et de là viser le grand ou l'ensemble, au lieu de faire le contraire, d'écrire un concept.
Et il est possible que finalement ce soit les petits gestes du quotidien qui nous sauvent. Puisque si on veut sauver le climat, que les jeunes nous poussent à faire, ils nous font honte en ce moment, en faisant des grèves, une grève européenne du climat, on a compris que ce sont les petits gestes du quotidien qui vont peut-être arriver à renverser la tendance.
Ça suffit pas.
Ça suffit
pas. Pour moi, il faut avoir les deux. Enfin, ça, parce qu'il y a souvent, il y a un peu ça. Bon, en Allemagne, il y a beaucoup ça. Bon, je vais acheter dans mon marché bio et maintenant j'ai bonne conscience et tout va bien. Mais j'achète des framboises en avril dans le marché bio. Désolée, ça changera rien. Non, ça c'est. Bien sûr, si les gens pensent à emmener des sacs pour faire leurs courses, des sacs, recycler les sacs en papier, je sais pas, c'est des gestes très faciles. Ça va pas sauver le monde, certainement pas, mais c'est un changement à petit niveau. Mais faut quand même pas oublier qu'il y a des intérêts très 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 forts, l'industrie du plastique par exemple, juste un exemple qui va pas se laisser faire. Donc ça suffira pas. Je me souviens dans les années 80, je commençais mes études, donc deuxième moitié des années 80. Il y avait tout un mouvement, j'allais au marché, j'emmenais ma boîte avec le lait pour le fromage, je sais pas, et tout d'un coup, on n'avait plus le droit, soi-disant, c'était pas hygiénique, et est apparu le point vert, qui est un système de recyclage où des gens ont fait pas mal de. Se sont fait des thunes en recyclant tout ça, au lieu de ne pas produire de matière à recycler, et c'était nommé le point vert, et c'est quand même. Perfide, enfin.
C'est du greenwashing, oui.
Oui, voilà. Ça, non, et comme ça, les gens pensaient, ah oui, il y a un point vert, je peux acheter les pots à yaourt à nouveau. Et je suis sûre que c'était une réaction parce qu'ils ont commencé à moins vendre. Et donc, voilà, il y a quand même, il y a des intérêts assez forts. Et là, c'est la politique qu'il faut atteindre. Il faut faire du lobbyisme, je sais pas, ça suffira pas de. Mais bon, déjà, tous les gens qui prennent. Enfin, Pourquoi on prendrait un espresso to go ? Pour moi, c'est un truc complètement absurde, parce qu'un espresso, ça veut dire que c'est vite, on le boit debout, sur place, on va pas, et on a déjà économisé un petit, petit gobelet.
Bon, ils nous font honte, les jeunes, vous pensez ? Ils ont raison, hein, mais.
Non. Enfin, je ne crois pas que les jeunes consomment moins que les vieux, ou que ça soit une question de génération, c'est une question de conscience. Et si maintenant il y a un mouvement de jeunes, tant mieux. Mais je pense pas que ça soit une question de génération, de polluer ou de pas polluer.
L'éducation aussi, quand même.
En même temps, les jeunes, ils ont l'habitude de prendre l'avion à tout bout pour un week-end et tout ça. Ça, j'ai pas du tout le réflexe. Hein. Enfin, je veux dire, je crois que chaque génération a ses lacunes de perception, disons, où elle a besoin de prendre conscience. Ouais.
Wenn ich die Augen schließe, ist der Himmel ein Bagger. Gelb, seine Schaufel so groß, dass die Welt hineinpasst. Er ist der Gott aller Bagger auf Erden. Ihn beten sie an mit jedem Klack-Klack ihrer Gelenke. Ihr chorisches Wühlen ist ein Wüten gegen ihre Conditio Technica. Ihr Jaulen im Tosen der Baustellen ein Jauchzen, Obertonsingen für göttliche Ohren. Im Gleichtakt recken sie ihre Greifer zum Himmel empor, doch diesen Takt nehme man nur von dort oben aus wahr, wenn man selbst Gott wäre, Himmel oder ein Bagger in der Größe des Himmels. Vielleicht ahnen die Kinder die Nöte der Bagger, oder sie wollen Gott sein, der die Schaufeln bedient. Ich öffne die Augen. Der Himmel ist eine riesige Schaufel, gelb, hängt am Gelenk des Alls.
Quand je ferme les yeux, le ciel est une pelleteuse jaune. Sa pelle est si grande que le monde y tient. Elle est le dieu de toutes les pelleteuses sur terre. Elle l'adore avec chaque clac-clac de leur charnière. Leur fouille chorale est un déchaînement contre leur conditio technica. Leur hurlement dans le fracas des chantiers, une exultation, un chant harmonique pour de divines oreilles. Synchrones, elles tendent leurs pinces vers le ciel. Mais cette cadence, on ne l'apercevrait que de là-haut, si l'on était soi-même Dieu, ciel, ou une pelleteuse de la taille du ciel. Peut-être que les enfants devinent la détresse des pelleteuses, ou ils veulent être Dieu qui actionne les pelles. J'ouvre les yeux. Le ciel est une gigantesque pelle, jaune, suspendue à la charnière de l'univers.
Vous dites, les poètes voient le monde en vertical alors que les romanciers le voient en horizontal.
En fait, j'ai eu cette idée quand j'étais en résidence, une bourse de résidence, et il y avait un écrivain estonien qui savait raconter les histoires. On était là à l'écouter, mais c'était waouh. Il partait toujours d'un tout petit détail, et puis waouh, il partait dans l'histoire. Et je me suis dit, je sais pas comment il fait parce que je vois le même détail, mais moi, ça serait l'instant que je parle. Et j'aurais tout de suite une idée de l'instant, un poème. Et lui dans l'instant, il voit déjà l'histoire qu'il peut développer. Et moi, je ne vois pas ça. Et c'était un peu cette idée. Et c'est pour ça que bon, j'ai écrit deux romans, mais c'est pour ça que je trouve ça assez difficile de développer vraiment un roman. Je veux quand même raconter une histoire. Et oui, j'ai jamais des récits très linéaires, ça c'est sûr. Mm-hmm. Ça part toujours dans tous les sens. Mais il y a quand même une histoire, quand même. J'essaie quand même, il y a une apothéose, je sais
y a
pas.
Il y a l'histoire avec un grand H qui est derrière.
Oui, aussi, oui, voilà. Beaucoup. Oui, ça m'a toujours passionnée.
Celle des années 70.
Dans le dernier livre, oui. Enfin, surtout 70, ouais.
Oui. Ouais.
Qui a beaucoup marqué donc, la société de l'AMN de l'Ouest. Mais tous les 10 ans, ça remontait. Alors, comme si le temps n'avait pas passé, et puis il fallait se positionner d'un côté ou de l'autre, comme ça avait été. Enfin, c'est quelque chose qui a énormément marqué, avec beaucoup d'émotion, mm-hmm. cette société. Et en même temps, j'ai l'impression qu'on en parle de manière...
Il y a les tableaux de Richter.
Oui, par exemple. Il y a eu justement cette exposition dans les Kunstwerk en 2007, je crois. Et puis, on disait que... on ne pouvait pas montrer la RFA en pièce d'art, c'était trop. Enfin, ça minimisait la violence et tout ça. Il y a un livre français de Mathieu Riboulet qui s'appelle Entre les deux, il n'y a rien, et qui décrit un peu de ce côté les années 80 en France. Et ça m'a beaucoup rappelé, en fait, cette ambiance, enfin, le raisonnement qu'il fait, justement, entre les deux, il n'y a rien, et c'était ça à l'époque. Et en fait, entre les deux, il y a comme un espèce de. de vide qu'on n'arrive pas à capter, à remplir. C'est autour de ça que tout mon livre essayait de capter ce qui s'est passé, parce que ça a été le premier mouvement politique qui a été médiatisé. Donc il y a énormément d'images, une mise en icône, et le symbole de la RFA se trouve sur des t-shirts et tout ça. Donc il y a plein d'images devant, on n'arrive pas à regarder derrière. C'est un peu ça ce que j'ai essayé de... Pour moi, les années 70, la société dominante, jusqu'à dans les années 80, pour moi, c'était une société de plomb et pas le plomb des balles ou quoi que ce soit. J'ai toujours compris ça plutôt comme ça.
J'ai une chape de plomb.
Oui, cette angoisse, enfin, cette peu d'espace qu'il y avait dans l'esprit. Je sais pas quoi, bien sûr, il y avait toujours des intellectuels qui étaient différents, mais je veux dire, la société... était très conservatrice, et encore très, il y a tout le nazisme derrière. Ça, c'est l'autre, que ça, pour moi, j'ai jamais trouvé que ça se discute ouvertement sur le fond du nazisme, et bien sûr que ce mouvement très violent a à voir avec cette époque très violente. C'est pas... je pourrais partir.
Oui, c'est complexe, en fait, on peut pas...
Ouais.
On peut pas résumer d'amour.
Mais en tout cas, ça peut pas se voir séparément.
Vous avez dit, soi-même, on ne connaît pas son propre style, d'où la difficulté de se traduire, même quand on est bilingue.
Oui, je pense, parce que quand je lis un poème pour la première fois, que j'ai envie de le traduire, ou parfois parce qu'on me demande de le traduire, il y a un mouvement très instinctif, je capte un son, une sonorité, une ambiance, et je fais un premier jet auquel je tiens beaucoup, qui est vraiment très instinctif, sans trop réfléchir. Et après que je retravaille, je vais chercher les mots, je fais des recherches plus particulières pour les mots, etc. Et ça, pour moi-même, je ne peux pas l'avoir. Enfin, peut-être qu'il y a des écrivains qui ont cette distance de soi-même, mais moi, non. Bah, j'ai dit hier, c'est un peu comme ma voix que j'ai l'habitude d'entendre en moi, et dès que je l'entends sur un magnétophone, je la trouve terrible, je la reconnais pas. Et je sais pas, c'est peut-être le mouvement contraire, mais pour moi, il y a quelque chose de ça. Mon texte, il est en moi, et quand il est hors de moi, je peux pas le reconnaître. Je sais que je l'écris, mais je reconnais pas mon style.
Alors pour vous, le cœur de l'Allemagne, il bat où ? Il est dans une ville, il est dans une région, il bat à Leipzig ?
J'aimerais dire Berlin ou Leipzig parce que c'est les... Mais non, parce que justement Berlin, ça serait le cœur d'une autre Allemagne peut-être. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un peu un cliché aussi. Mais je pense qu'il n'y a pas un cœur dans un pays. Justement, un pays doit battre avec plein de cœurs, sinon... C'est trop restreint et on aboutit dans le nationalisme et dans des clichés ou je sais pas quoi. Le cœur de la France, pourquoi ça serait Paris ? Enfin, il y a plein de cœurs et même à Paris, il y aurait plein de cœurs déjà. Et bon, l'Allemagne est un pays fédéral, donc déjà, c'est plus réparti. Quoique Berlin a quand même, entre-temps, vraiment pris le rôle d'une vraie capitale, disons, ce que Bonn n'était pas, ce que Berlin-Est était. Mais même dans une ville comme Paris, il y a plein de cœurs qui battent. Et justement, c'est ce qui est intéressant, le pom-pom, mais des rythmes différents.
Et il y a un cœur de l'Europe ?
C'est la même chose, il y a plein de cœurs. Tout ce qui est... Enfin, je ne suis pas du tout contre le centralisme, parce que quand c'est trop fédéral, parfois ça devient très provincial aussi. Je crois qu'il faut qu'il y ait une bonne balance entre les deux. Mais dans l'Europe, si on dit que Bruxelles, c'est pas le cœur de l'Europe, c'est le cœur de l'administration, de la politique, certainement, et Strasbourg un peu aussi, mais même que Strasbourg, ça serait pour moi, c'est un cœur très franco-allemand, ça c'est sûr, historique aussi, oui. Mais l'Europe doit battre avec plein de cœurs. Avec les gens qui arrivent d'autre part, c'est d'autres cœurs encore, et puis ça augmente les cœurs, tant mieux.
Merci beaucoup, Odile Canel. Vous la retrouverez aussi sur son blog, Odile Canel en un seul mot, .blogspot.com. Là, vous trouverez bien sûr toute sa bibliographie. Et puis, n'oubliez pas, la poésie est une arme d'expression massive. Alors, poétisez-vous. Merci.
Vous écoutez Station Simone.